Chers collègues, je me joins à vous par la pensée, car je ne peux me déplacer actuellement. J'exprime ma reconnaissance à Mesdames Nicole Ollier et Kerry Jane Wallet pour m'avoir invité. Et je vais sans plus tarder vous faire part de mes réflexions que j'ai condensées au sein d'une communication qui s'intitule « La transmission de l'esthétique caribéenne ». À l'ère où l'efficacité des nouvelles technologies permet de connecter instantanément les hommes d'un bout à l'autre de la planète, la question de la transmission pourrait, a priori, passer pour désuète. Il est désormais acquis qu'un simple clic ou effleurement d'une surface tactile suffit à nous mettre en relation avec des réalités extérieures très éloignées dans l'espace ou dans le temps, voire, dans certains cas, de les impacter en direct. Cela étant, les choses ne sont pas toujours aussi simples et pour cause. Transmettre, ce n'est pas simplement communiquer. La transmission revêt un aspect performatif. Elle agit sur l'autre. Elle le transforme. Sa dynamique, complexe, se décline en plusieurs étapes, toutes solidaires les unes des autres. Transmettre, c'est tout d'abord opérer la sélection de contenus, de savoir et de savoir-faire, voire d'attitudes spécifiques destinées à un récepteur particulier. C'est ensuite choisir un canal de transmission par lequel le contenu à transmettre peut s'effectuer en toute quiétude. Transmettre, enfin, c'est également s'assurer que le transfert a bien eu lieu et que celui ou celle qui en a été la cible est en mesure d'en faire un usage immédiat, de le transmettre à son tour, voire, si l'opportunité s'en présente, d'apprendre aux autres comment devenir de nouveaux transmetteurs. De ce point de vue, transmettre revient à intégrer une communauté d'initiés à un ensemble d'habitudes culturelles déterminées. Cette conception de la transmission respecte un schéma caténaire et fatique. Les récipiendaires de la transmission se voient attribuer, consciemment ou non, une place, un rôle au sein d'une chaîne de transmission dont ils assurent la continuité et le renforcement par la répétition d'actions similaires. Certes, on pourra objecter à ceci que tous les aspects précédemment évoqués sont déjà du ressort de la communication, dont la transmission ne serait alors qu'un aspect particulier. Mais en pareille matière, le facteur humain doit toujours l'emporter sur les arguties ou le débat d'opinion. Transmettre, c'est, dans notre approche de l'esthétique, bien plus que tout cela, c'est transférer une part de soi dans l'autre. C'est ce qui explique le sens de la pensée du philosophe René Ménil. Je cite « Nous n'avons accès à l'univers qu'en passant par nous-mêmes ». Fin de citation. Sur cette base, on pourrait se demander s'il existe des aires géoculturelles dans lesquelles l'enjeu de la transmission présente un caractère identitaire très ancré, pour ne pas dire déterminant, pour l'avenir des individus qui y sont nés. On pourrait encore s'interroger sur la dynamique des mutations culturelles de telles sociétés, et notamment dans quelle mesure l'échec de la transmission pourrait avoir comme conséquence la déculturation du sujet qui en serait victime. Ce questionnement initial est le fruit d'une mûre réflexion, issue d'un parcours personnel et mutualisé dans la Grande Caraïbe. Étant passionné d'art, d'anthropologie culturelle et d'archéologie, l'idée nous est venue, au terme de plusieurs voyages, d'esquisser une réflexion théorique, historicisée, sur le fonctionnement de la transmission dans cet espace rhizomique qu'Édouard Glissant nomme « Une nouvelle région du monde » dans son ouvrage intitulé « Esthétique 4 ». En parallèle, une relecture critique de certains chapitres d'une histoire des civilisations, ouvrage collectif dirigé nous a conforté dans l'hypothèse que chaque société, chaque époque a ses modes de transmission propres en ce qui concerne le domaine de l'esthétique. Pour être en mesure d'apprécier l'efficience de ces modes de transmission, il semble opportun de proposer un modèle d'analyse endogène avec ses règles constitutives propres. Il s'agit là d'un enjeu qui excède le simple cadre de l'épistémologie, Comme nous le verrons au travers de cette étude, une telle entreprise assigne aux chercheurs le rôle de dégager des pistes de réflexion et d'engagement citoyen pour mieux aborder les réalités du présent et des défis de l'avenir. La Caraïbe, de ce point de vue, apparaît comme le lieu d'un ancrage paradoxal. Étant héritière d'une tradition syncrétique, sa culture esthétique interpelle en vertu de ses origines fragmentaires. Or, au lieu de se diriger dans le sens de la rupture ou de la défragmentation, la dynamique d'hybridation à l'œuvre au cours des trois derniers siècles de contact avec des cultures du monde entier révèle un potentiel d'acculturation formelle et matérielle remarquable. La préoccupation qui nous anime à cette heure provient justement de cette dualité. Est-elle productrice de plus-value en termes d'originalité esthétique ou conduit-elle à une déperdition de la caribéanité esthétique? Première partie, la Caraïbe, un carrefour d'influence esthétique. La célébration de l'hybridité appelle immanquablement, par un effet de vase communicant, l'attraction pour son corollaire opposé, la quête des origines. Or, l'histoire culturelle de l'Occident et celle du Nouveau Monde ont en commun la recherche d'une nouvelle originalité à travers l'emprunt et la créolisation d'apports halogènes. Le cas de la Grèce, à cet égard, fournit d'utiles pistes de départ à notre réflexion sur la transmission d'une esthétique propre au monde américano-caraïbe. Nous en avons déjà donné un aperçu lors de la journée d'études cartographie et topologie identitaire au cours de notre entretien avec l'historien Nenad Fedjik. C'est en procédant à un rapprochement entre la configuration du bassin méditerranéen et celle du bassin caribéen que nous en sommes venus à constater que les deux ensembles géoculturels ont connu une problématique de territorialisation identitaire comparable. Pour commencer, les Grecs anciens avaient une conception très arrêtée de la citoyenneté. Selon Thucydide, les barbares, c'est-à-dire les étrangers, étaient voués à ne jamais participer à la vie de la cité grecque. Les femmes, les esclaves et les mineurs en étaient également exclus. Éprise de philosophie, de théâtre et de guerre, la société grecque avait intégré dans la formation de tout jeune homme le passage par un certain nombre de rites initiatiques, dont notamment l'éphébie accessible dès l'âge de 18 ans. Tout cela était un préalable avant de se voir décerner le statut de citoyen grec. Il en résulta une esthétique du quotidien qui se doublait d'une éthique du sensible, essentiellement phallogocentrique, pour reprendre un terme très en vogue dans le discours féministe. Pour être citoyen grec, il fallait à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ pouvoir s'inscrire dans une chaîne de transmission généalogique. Les citoyens étaient grecs de père en fils. On naissait et mourait grec. La transmission de l'identité nationale grecque, de même que le statut afférent de citoyen grec, représentait un privilège, un capital immatériel, mieux, un patrimoine immatériel, symbolique et vital qu'il fallait conserver à tout prix. L'octroi de la citoyenneté à un étranger ne pouvait donc être accordé que par décret. C'est dire si elle était exceptionnelle. En règle générale, chaque citoyen grec pouvait se prononcer librement sur sa vision du monde et la partager avec ses concitoyens. Ainsi, les efforts de définition du sens moral, de la beauté et de la bienséance constituaient des sujets de débat récurrents dans l'agora. En d'autres termes, la possibilité de se joindre à ce type de débat public faisait partie du droit de cité. D'ailleurs, les joutes oratoires de Socrate et de Platon en constituent un exemple tangible. Soigneusement confiés à des scribes, ces discours ont traversé des siècles et des millénaires pour parvenir jusqu'à notre ère et continuent d'influencer notre représentation de la chose culturelle et artistique. Dans une certaine mesure, cet héritage que l'on pourrait qualifier d'hélénocentrique constitue une base essentielle à la transmission de l'eurocentrisme, ce schéma de pensée alternativement perçu comme un rempart contre la barbarie ou décrit comme un obstacle à l'avènement des sociétés multiculturelles contemporaines. Cela étant, Si les anciens Grecs avaient beau jeu de se prévaloir d'être les garants d'une forme d'exception culturelle, ils n'en étaient pas moins lourdement endettés sur les plans intellectuels, religieux et esthétiques envers l'Égypte ancienne. Jean-François Champollion ne le souligne-t-il pas d'ailleurs qu'une bonne partie de la pensée grecque est d'origine rigoureusement égyptienne. Je cite « L'interprétation des monuments de l'Égypte mettra encore en évidence l'origine égyptienne des sciences et des principales doctrines philosophiques de la Grèce. L'école platonicienne n'est que de l'égyptianisme sorti des sanctuaires de Saïs. » Les nombreux séjours des philosophes et mathématiciens grecs en terres égyptiennes attestent de leur degré d'entêtement vis-à-vis de leurs homologues égyptiens qui étaient pour l'époque nettement plus avancés qu'eux. Pour autant, le souci de reconnaître cette dette transparaît à peine dans les écrits de Platon. De même, l'esthétique architecturale de Delphes révèle une parenté évidente avec celle qui imprègne les édifices de la vallée des rois. Mais qui en parle ? Qui a le courage et l'honnêteté de révéler les conditions de sa propre intégration à la chaîne de transmission esthétique et philosophique égyptienne? Qui lève le secret sur les dettes de transmission? Encore une fois, tout se passe comme si, dans l'imaginaire et l'hélénocentrique, les fondements de l'esthétique occidentale étaient brutalement apparus à Crète et en Grèce comme le fait une génération spontanée. Certes, on pourrait s'attendre à pire. La transmission pourrait, en théorie, se métamorphoser en usurpation. Mais les idées et pratiques sont faites pour circuler. Les idées et les pratiques culturelles sont faites pour circuler. Là n'est pas l'essentiel. Le récepteur, peu intègre, aura toujours la latitude de se poser en auteur de la transmission. Ce qui n'est pas exemple de danger, d'ailleurs, pour le maintien des transmissions futures. En effet, à bien y regarder, cette conjecture recèle un potentiel de brouillage considérable. Mais le plus important, ne l'oublions pas, c'est de comprendre comment s'opère la transmission de la mémoire des esthétiques et dans quelles conditions elle peut se perpétuer en contexte pluriculturel. À cette intention, il nous faudra faire un bond de 19 siècles en avant dans le temps et de plusieurs milliers de kilomètres dans l'espace, pour se retrouver à l'instant fatidique du choc culturel et esthétique entre l'Occident et le Nouveau Monde. Dans bien des cas, ce choc s'avérera fatal pour certaines cultures natives. Mais pour les autres, les survivantes, l'expérience de la rencontre agira en qualité de moteur d'hybridation et de renforcement des cultures hôtes. Dans ce cas, il s'agit d'une catastrophe positive, pour reprendre l'oxymore formulé par l'écrivain guyanéen Wilson Harris. Il naîtra pourtant de cette violence une culture et une esthétique fille assises sur de solides fondations. L'esthétique caribéenne est vivante et solide. Elle est tenace parce qu'elle est issue d'héritages esthétiques millénaires. À l'image des toiles de ses peintres les plus emblématiques, je veux citer ici John Iafo, David Boxer ou encore Louis Laouché, cette esthétique intègre et réconcilie les composantes amérindiennes, africaines et européennes des peuples du divers au sein d'une créolité polymorphe que Glissant reconnaît à travers sa conception du tout-monde. L'esthétique caribéenne est à la fois désir de puissance et force d'humilité quand elle se retrouve mise en regard de ses origines. Elle convoque les acteurs d'une scène traumatique à la barre de l'histoire pour conjurer l'oubli. L'esthétique caribéenne contemporaine n'a plus besoin de s'affirmer comme la fille bâtarde et revancharde de fragments échoués sur les rives du sixième continent pour faire valoir un succès d'années de légitimité. Elle est désormais mère de tous les vivants de ce monde fragmenté qui ne veulent plus errer. Elle enfante, elle produit, elle crée de nouvelles poétiques, elle met au monde de nouvelles régions esthétiques qui s'affranchissent de l'universalisme ethnocentrique. Et de fait, elle court justement le risque de s'essouffler avant d'avoir pu se transmettre aux gardiens de la mémoire. Pour survivre et se perpétuer, il lui faut un véhicule et une demeure. C'est à ce prix qu'en l'espace de 4 siècles, la société archipélique du 6e continent a pu voir apparaître et se développer en son sein une véritable caribéanité esthétique marquée au sceau de l'hybridité et de l'authenticité. Dépositaire d'un riche héritage historique, culturel et relationnel, la communauté diasporique qui lui a donné le jour se retrouve aujourd'hui confrontée à la question du positionnement de son identité esthétique dans un contexte globalisé. Le temps du bilan, d'une synthèse sur les modes de transmission et sur leur efficience s'impose dorénavant comme une nécessité absolue si l'on veut envisager sereinement l'avenir de ces sociétés. Pour tout dire, il s'agit davantage d'un problème de transmission de la culture esthétique que d'une carence foncière en termes de contenu. Il s'agit donc pour l'heure de dépasser les lieux communs associés aux idées de répétition, d'allégeance, voire d'exotisme, désormais relégable à l'arrière-plan de schémas stéréotypés. Dans cette perspective, nous nous attacherons à mettre en évidence comment les praticiens des arts visuels et scéniques s'emploient à relever l'un des défis majeurs du XXIe siècle, à savoir l'actualisation, par le biais de nouveaux modes de transmission, du plein potentiel d'un art voué à libérer la société en transmettant des paradigmes novateurs qui réalisent les promesses comprises dans les conditions d'existence et de devenir. Comment ces multiples dynamiques de transmission peuvent-elles se matérialiser dans l'espace de la réalité? De quoi sont-elles le signe? Notre recherche s'attellera à corréler la conception glycentienne du rhizome et celle de l'Atlantique noir afin de faire ressortir deux axes principaux du champ des possibles. La voie du cosmopolitisme, privilégiant le dialogue transnational et transgénérique, et celle du nativisme, orienté vers l'enracinement et la quête de singularité du lieu. Bien entendu, ces choix ne sont pas exclusifs. Entre ces deux options, existe tout un éventail de situations particulières que l'on pourrait associer au tiers-espace des styles et identités alternatifs et dont la transmission de la caribéanité esthétique favorise l'émergence. Deuxième partie, la Caraïbe creusée de syncrétisme esthétique. Il semble pertinent maintenant de faire débuter cette réflexion en rappelant le constat du syncrétisme culturel maintes fois évoqué au sujet de la Caraïbe. L'expression « syncrétisme culturel » renvoie immanquablement à l'idée d'une conjonction d'influences ou de doctrines différentes qui aboutit à une création nouvelle, la culture syncrétique. Intégrant différents apports et suivant une logique de métissage, cette culture sécrète, se constitue à partir d'une trame commune à toutes les cultures mères et les cultures filles de la diaspora. Nous voulons lui adjoindre, par analogie, la notion de syncrétisme esthétique, c'est-à-dire le processus continu d'hybridation par lequel la relation esthétique tend à se stabiliser par un jeu d'emprunts et d'équilibrage des esthétiques originaires. Selon cette acception, il ne saurait exister d'esthétique universelle, en tout cas pas au sens où l'entend Baumgarten dans son fameux traité d'esthétique datant du XVIIIe siècle. Certes, il est vrai que les ramifications du canon esthétique caribéen se jouent des frontières géographiques et parviennent sans encombre à pénétrer les méandres de la créolité. La musique, la langue créole et les arts vivants participent ainsi au développement de nouvelles ramifications de la caribéanité esthétique. Pour s'en rendre compte, il suffit de prendre l'exemple des musiques qui ont accédé à une audience de rang international. Le zouk et le reggae font partie de ces musiques diasporiques qui ont su s'exporter au-delà des mers. La multiplication d'événements socioculturels fédérateurs autour de ces musiques, tels que les concerts en plein air ou les échanges en direct sur les réseaux sociaux, permettent à ceux qui se définissent comme membres de la diaspora antillaise de se retrouver en présentiel ou grâce aux nouveaux médias. Il en va de même pour les danses, qui subissent depuis quelque temps l'assaut de nouvelles tendances, donnant le pas au global sur le local. Si les pulsations de base qui les structurent permettent à tout un chacun de s'exprimer librement et de faire montre de son corps, la dynamique d'internationalisation et d'homogénéisation du goût qu'elles servent se montre inapte à pérenniser les trésors d'inventivité musicale des années 1980 et 1990. Je vais maintenant donner un exemple plus concret à travers l'évolution du zouk. Le zouk, musique synthétique et diasporique. Le zouk s'est exporté en France hexagonale très tôt. Mais il faudra attendre le milieu des années 1980 pour que des lieux de transmission de l'esthétique du zouk fassent l'objet d'une reconnaissance informelle. Parmi les lieux les plus emblématiques, on citera la fameuse Main Bleue, une boîte de nuit autrefois située au sous-sol du terminal 9-3. Cette boîte de nuit se verra rebaptisée en 5e dimension quelques années plus tard. La réputation de ce lieu prit beaucoup d'ampleur et sur les deux rives de l'Atlantique, toutes sortes de rumeurs couraient à son endroit. À vrai dire, il s'agissait davantage d'un espace de consommation passive qu'un lieu de transmission sérieuse, dans la mesure où les quelques années d'existence de la structure ne donnèrent pas lieu à une reprise de flambeau. Les créations musicales émanaient pour la plupart des Antilles françaises et se voyaient exportées en métropole, vers la métropole, pour le plus grand plaisir des amateurs de musiques afro-caribéennes. Mais tout bien considéré, et à l'exception de quelques DJ, l'expérience ne se solda pas par l'éclosion de nouveaux talents artistiques. Il faut le reconnaître, la transmission à ce niveau faisait encore défaut. Les médias, quant à eux, ne s'avéraient guère plus aptes à susciter la transmission active et fructueuse tant espérée. Radio Mango, une chaîne née en 1982 en région parisienne, avait beau multiplier les soirées à thème, les entrevues d'invités prestigieux et d'autres formes de programmes incitatifs pour susciter une dynamique d'échange transatlantique, rares furent les ultramarins de France hexagonale à s'engager à la suite de leurs cousins des Amériques dans la voie de la création. Ce parti pris s'explique, selon Louis Xavier, par une orientation culturelle qu'il qualifie aux besoins de politique. Je cite. Transmettre la culture, c'est de la politique, puisque la manière de parler de la culture, de véhiculer de la culture, c'est toujours une attitude politique au fond. Il peut y avoir une culture allant dans le sens de la désaliénation, ou une culture qui au contraire travaille dans le sens de l'aliénation. Les propos de l'homme des médias se font le relais du point de vue d'une frange militante de la génération du Binidom qui s'est saisie dès son arrivée en France dans les années 1970 des problèmes culturels, politiques et identitaires rencontrés par les Antillais déracinés. Il y aurait, selon Xavier, un choix à faire entre la désaliénation et l'aliénation, c'est-à-dire un positionnement esthétique et politique en phase avec la pensée de Frantz Fanon ou en accord avec une vision républicaine assimilationniste aspirant à gommer les différences. Cela revient à dire, dans la perspective que nous nous sommes fixés, que la prise de conscience esthétique ne saurait être une affaire apolitique dans la mesure où elle détermine les choix culturels et le positionnement esthétique qui peut révéler l'une ou l'autre des deux faces de la réalité antillaise, réalité qui Léopold Montieu, ancien maire du Robert, compare aux deux visages de Janus. Étonnamment, ce sur l'Amérique du Sud et le Brésil, notamment, ou encore le Japon, qui se montrèrent très réceptifs et réactifs à cet appel à l'externalisation du zouk, ce qui explique en partie l'apparition soudaine de l'orchestre de formation musicale telle que l'Orquesta de la Luz du zouk et de zouk brésilien dans le paysage musical antillais vers la fin des années 1990. Tout cela, bien entendu, avec le concert des radios locales et hexagonales, mais aussi et surtout grâce aux nombreuses rediffusions de clips vidéo dont ces groupes musicaux purent bénéficier. Outre-Atlantique, le bilan restera plutôt mitigé, alors que dans l'ère du Pacifique et sur le continent sud-américain, la transmission se révéla plus efficiente dans la durée. Maintenant, le zouk fit également l'objet d'externalisations que nous qualifierions d'excessives. En vertu de la dynamique actuelle d'abstraction et de décomplexification qui a commencé dans les années 90, le syncrétisme esthétique caribéen demeure sujet à controverse. Car, en dépit des efforts consentis par quelques artistes de deuxième génération pour remettre à l'honneur les héritages artistiques traditionnels, les moyens matériels viennent toujours à manquer dès lors qu'il s'agit de promouvoir la culture artistique antillaise. La transmission efficiente et efficace est celle qui, selon nous, parvient à s'installer dans la durée et à marquer son territoire dans le temps des mentalités. Or, et c'est là un singulier paradoxe, plus l'esthétique caribéenne s'externalise, plus elle tend à se diluer dans le magma des world cultures. Les arts représentent les premières formes d'expression impactées par ce phénomène de dilution qui frôle, qui frise parfois avec la déculturation. L'exemple du zouk, l'une des formes les plus emblématiques de transdisciplinarité artistique caribéenne, montre à quel point l'américanisation accélérée de l'esthétique caribéenne se rapproche de la désessentialisation. Ainsi, au fil du temps, l'essence caribéenne des esthétiques filles, issue du croisement avec les esthétiques binaires, elles-mêmes provenues des courants artistiques mondiaux, finissent par engendrer le délitement de ce qui constitue l'essence même de la caribéanité, à savoir l'interpénétration des substrats artistiques d'origine africaine, européenne et indienne. La réception de cette esthétique est également problématique. Les standards artistiques et culturels des années 1960 à 1990 représentent pour les générations montantes, c'est-à-dire celles d'aujourd'hui, un capital symbolique certes incontournable, mais dont la pertinence est remise en question par la concurrence de modèles exogènes. À terme, l'enculturation des world cultures risque de déstabiliser l'ancrage géoculturel et le sentiment d'appartenance à une communauté esthétique. Certes, on pourra toujours arguer que le destin naturel des arts est de se métisser, mais à quel prix et dans quelle direction? Le potentiel fédérateur des arts musicaux et picturaux appartient désormais à une époque révolue. La perspective, je veux parler de ces arts-là, des années 60 à 1990, la perspective d'un choc civilisationnel positif ne peut être envisagée, à notre humble avis, qu'à la faveur d'une renaissance culturelle et esthétique comme celle qui se produit dans les années 1920 dans le quartier de Harlem. Il faudrait pour cela effectuer un retour aux origines, au lieu de foncer tête baissée dans la course à l'hypervisibilité. C'est tout le sens d'un art noble, dédié à l'élévation des consciences collectives et individuelles, qui se manifesterait ainsi à travers l'esthésis des artistes caribéens. Ils sont déjà nombreux d'ailleurs à penser l'art comme le locus d'une recomposition identitaire et de refondation esthétique de la diaspora. C'est en tout cas ce que montre le parcours exemplaire de plasticiens tels que René Louise, Patricia Donatien, Valérie John, Michel Rovelas, Ricardo Ozy-Lafontaine et Thierry Tianciopo, pour ne citer que ceux-là. Troisième partie, la pérennisation de la conscience esthétique caribéenne. Ainsi, en qualité de témoins et acteurs de leur temps, les artistes caribéens font évoluer les sensibilités et mentalités des sociétés dans lesquelles ils vivent et vibre. Convoquant par nécessité et originalité la mémoire collective, ces créateurs font œuvre de passeurs entre l'ici et l'ailleurs, l'antériorité et la postériorité, la localité et la globalité. Et c'est à ce titre que nous voulons invoquer la notion de transmission pour élever la réflexion sur l'évolution de l'esthétique caribéenne au juste niveau qui lui sied. La musique, discipline reine et universelle, a le pouvoir de fédérer les êtres d'horizons différents et de favoriser le dialogue interculturel en se passant de mots qui peuvent parfois trahir le sens profond d'une pensée. À ce titre, elle se doit de jouer le rôle de gardienne de l'esthétique caribéenne, de gardienne et de transmetteuse de l'esthétique caribéenne, en allant dans le sens du respect des traditions, tout en se prémunissant des mirages de l'hypermodernité. Nombreux sont les artistes qui, en voulant répondre présent à l'appel des sirènes du marché de l'art, se sont perdus. Il ne s'agit pas de verser dans quelque forme de nombrilisme, de nostalgie passéiste. Il faut au contraire être citoyen et acteur de son temps, à l'instar de personnalités très médiatiques comme Jocelyne Béroir et Admiral T, ou agir en qualité de transmetteur plus discret, comme l'ont fait Henri Debs, Pierre-Édouard Décimus, Félix Casirus, Frédéric Caracas ou encore Moon de Rivel. Sur ce plan, les arts plastiques ne sont pas en reste, bien qu'étant par nature beaucoup moins audibles. Le peintre Louis Laouché et le sculpteur martiniquais Joseph-René Corail, alias Coco, se sont très tôt positionnés en faveur d'une sanctuarisation de la mémoire des esthétiques. Leur travail artistique constitue un héritage considérable qui témoigne d'une volonté d'asseoir les bases d'une esthétique endogène à la Caraïbe. Dans une certaine mesure, Laouché est héritier du travail pionnier de l'atelier 45, qui s'est démarqué en contexte colonial par sa détermination à, je cite, « batailler pour que nos sujets ne soient pas exoticisés », citation d'Audrey Célestine. Ces toiles traduisent l'expression plastique de l'esthétique négro-caraïbe, qui s'est singularisée par l'urgence d'un retour aux origines, même si son frère d'armes, Serge Hélénon, finira par la suite à retrouver au pays natal ses véritables souches, ses véritables origines, comme le fit Aimé Césaire, quelques décennies plus tôt. La génération suivante d'artistes pourra en revanche déplorer un manque de transmission à leur égard en provenance des aînés. En Guadeloupe, par contre, le travail de transmission effectué par Michel Rovelas révèle du militantisme. L'artiste originaire de Capesterre-Belle-Eau s'est illustré par une volonté farouche de transmettre son art et sa vision de l'art à plusieurs générations d'artistes qui ont eu le choix par la suite d'opter pour l'enracinement dans la caribéanité ou pour l'élargissement de leur perspective à l'horizon des World Cultures. En tout état de cause, l'esthétique caribéenne pourra espérer la pérennisation de ses gènes culturels si et seulement si les conditions de son transfert et les conditions de transfert et de préservation de ses systèmes, modèles et lieux de transmission font partie des priorités des politiques locales et nationales. Il appartient également, et il faut le dire et le redire, il appartient également à chaque sujet issu des sociétés caribéennes de faire preuve de citoyenneté diasporique. Ceci peut se manifester activement, je veux dire en participant à la préservation et à la transmission de cet héritage. Cela passe d'abord par un partage effectif au sein de la famille que Pierre Bourdieu considère comme, je cite, « un des lieux par excellence de l'accumulation du capital sous ses différentes espèces et de sa transmission entre les générations ». Fin de citation. C'est ici, à mon avis, que se joue l'essentiel. Entendons par là, au sein de la famille, au sens large, celle qui inclut les amis, les proches et les bienfaiteurs. C'est ensuite le devoir de l'école de formaliser ces apprentissages et de les ériger au rang d'habitus culturels dans la mesure où la langue scolaire n'est, je cite, n'est une langue maternelle que pour les enfants originaires de la classe cultivée. Fin de citation, Ted Bourdieu. L'exemple de l'école Berthelot à Lille est représentatif de cette démarche appropriative et inclusive d'une politique scolaire multiculturelle et de proximité. Une enseignante a pris le parti d'enseigner la pratique du stilpan à sa classe de cours moyen, constituée en majorité d'élèves issus de l'immigration. L'entreprise a été couronnée de succès et les écoliers lui en furent reconnaissants. Grâce à son engagement à la cause esthétique caribéenne, une génération de jeunes pourra maintenant se connecter avec plus d'aisance et de confiance aux dynamiques socioculturelles de la diaspora. En conclusion, nous aimerions rappeler quelques points forts de notre réflexion. Pour commencer, la dualité. Car, il faut le dire, la conscience esthétique des peuples du Nouveau Monde est partagée entre le respect des traditions et l'attrait de la modernité. Elle doit en parallèle composer avec le changement accéléré des habitudes culturelles qui migrent vers un substrat social de plus en plus chaotique. Et il s'agit là d'une considération essentielle. D'une part, l'appel de l'hypermodernité, dans un contexte globalisé, celui de l'extrême contemporain, eh bien, l'appel de l'hypermodernité semble fragiliser l'altérité novatrice de la poétique caribéenne. Tandis que d'autre part, les cultures traditionnelles doivent s'adapter aux contingences matérielles de la société actuelle pour survivre et se transmettre aux générations futures. C'est là un dilemme particulièrement sensible. Aussi, l'enjeu de la survie de l'esthétique caribéenne se double-t-il de celui de sa légitimité? Cela place la question de la transmission au cœur des préoccupations qui nous concernent. Freud ne disait-il pas qu'une société sans mémoire est une société névrotique? Fort heureusement, la fragmentation mémorielle et identitaire n'est pas absolument synonyme de perte ou de dissolution. L'art musical, pictural, performatif des petites et grandes Antilles en apporte la preuve tangible. Et si l'on admet que les Amériques insulaires ne peuvent prétendre à l'indivisible unité en raison de leur trop grande diversité, il est tout aussi vrai qu'en terre Caraïbe, art et société demeurent liés par des connexions organiques et transgénérationnelles très profondes et très réelles qu'il s'agira de réactiver au besoin. Je vous remercie.